Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Bientôt, le quantique mettra toutes nos données à nu. Il faudra donc trouver une parade qui sera forcément quantique. Dans ce domaine, la France ne manque pas d'atouts. Elle possède plusieurs startups pour répondre à ce défi. L'une d'elles s'appelle VeriCloud, fondée et dirigée par Marc Kaplan, que je reçois justement aujourd'hui. Bonjour Marc Kaplan. Allez, en quelques mots, vous garantissez la sécurité à partir du quantique des réseaux de télécommunications, c'est ça ?
Effectivement, on tire parti des technologies quantiques pour garantir la sécurité ou pour donner des garanties de sécurité plus élevées sur les réseaux de communication, mais aussi pour le stockage de données dans le cloud.
Donc, réseau de télécommunications classique, et vous arrivez au bout de ce réseau, et là, vous, qu'est-ce qui se passe ? Vous chiffrez grâce à du quantique, c'est ça ?
C'est ça, on garde les réseaux de communication tels qu'ils existent, avec la fibre optique notamment, mais on vient remplacer les bouts du réseau en mettant des boîtiers spécifiques aux deux bouts du réseau qui vont chiffrer l'information en utilisant précisément les propriétés de la physique quantique.
Et là, c'est là que c'est normalement inviolable, on est d'accord ?
Alors, c'est inviolable dans le sens où si quelqu'un essaye d'attraper les clés de chiffrement pendant qu'elles sont échangées, on va le repérer, effectivement. Donc, on peut ne pas utiliser ces clés et puis recommencer le chiffrement, par exemple.
Ouais. L'état d'aujourd'hui, ce que vous êtes capable de faire et de fournir en garantie à des entreprises ou des administrations, on est d'accord que vous n'avez pas besoin d'ordinateurs quantiques aux deux bouts de la communication.
On est tout à fait d'accord là-dessus, on n'a pas besoin d'ordinateur quantique. Finalement, ce qu'on fait, je dirais technologiquement, est beaucoup plus simple que de construire un ordinateur quantique. En revanche, on est plus avancé dans le déploiement, donc on est en recherche de cas d'usage et des bons acteurs pour adopter ces technologies aujourd'hui.
Alors, qu'est-ce qu'il y a de quantique dans les clés que vous proposez de sécurité ? Ça veut dire quoi ? Que ça ne fonctionne pas avec des zéros et des uns ? Comment ça ?
Effectivement, alors ce qui est quantique, c'est pas les clés elles-mêmes, c'est la méthode pour établir ces clés. On va envoyer de l'information codée dans les systèmes quantiques qui ont cette propriété, comme on l'a peut-être entendu quand on était petit dans les cours de physique, si on essaie de les observer, ça va modifier l'information qui est dedans. Tout simplement. Et donc, on peut tirer parti de ces choses-là pour faire ensuite des clés de chiffrement et d'autres choses, d'ailleurs.
Bon, pour résumer à grands traits, le quantique, c'est la possibilité qu'une information soit à un endroit donné et à un autre en même temps. C'est ça un peu le quantique par rapport au numérique ?
Effectivement, on dit que l'information quantique a cette propriété d'être à la fois 0 et 1.
Voilà.
Le numérique, c'est 0 ou 1.
Ouais. Ce qui permet de multiplier les calculs.
Ce qui permet d'accélérer certains calculs, pas tous.
Ouais, mais c'est vrai ce qu'on nous annonce, qu'une technologie quantique peut faire un calcul en 10 minutes que l'ensemble de l'humanité mettrait plusieurs années à faire ?
C'est
vrai.
Tout à fait vrai.
Ouais, ça a vraiment une puissance incroyable.
Mais encore une fois, c'est vrai pour certains types de calculs et pas pour d'autres.
Donc il est important que des entreprises comme les vôtres soient sur ce marché.
Il est important qu'on explore effectivement les possibilités de commercialisation, puisque comme je disais, c'est certains calculs et pas d'autres. Dans notre cas, c'est certains problèmes de sécurité et pas d'autres qui vont être améliorés. Donc il faut aujourd'hui, même si les technologies en sont à leur début, voire sont pour certaines inexistantes, travailler avec les utilisateurs potentiels pour aller définir les bons champs d'application de ces technologies.
Alors, est-ce que c'est opérationnel ? On sait par exemple que le port de Rotterdam a mis en place un réseau de télécommunications avec justement du chiffrage quantique. Est-ce qu'il n'y a qu'eux qui le font ou est-ce qu'ailleurs il y a d'autres expériences ?
Alors, il faut distinguer en fait, donc ici on parle de communication quantique, il faut distinguer un peu ce qui se passe en Europe et dans le reste du monde. En fait, comme c'est de la cybersécurité, il y a une sensibilité assez différente en fonction des régions et puis certainement aussi des enjeux géopolitiques pour savoir quelle est la bonne technologie, quelle est la bonne parade à la menace qui vient de l'ordinateur quantique. Disons, ce qui est raisonnable aujourd'hui, c'est de tester un peu tout. Et donc, c'est ce qu'a fait, par exemple, c'est ce qu'on fait aux Pays-Bas, avec des organisations et des entreprises fortes pour porter ces technologies-là. Et le port de Rotterdam est effectivement un des utilisateurs précoces de ces technologies.
Pionnier, oui, très
pionnier. Aujourd'hui, à l'état de test, qu'on soit bien clair. Évidemment, c'est des tests quand même de relativement grande ampleur sur des sites quand même extrêmement sensible, port de Rotterdam. Donc, c'est assez prometteur pour la technologie.
Et ça marche ? On a des retours pour savoir si c'est opérationnel ?
Oui, ça fonctionne.
C'est vrai ?
Ça fonctionne, oui.
Ouais.
Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas du tout être attaqué. Il y a quand même certainement des vecteurs d'attaque qui ne sont pas d'aller intercepter, qui sont, par exemple, d'aller attaquer au nœud du réseau. Mais on a besoin, effectivement, de tester ces technologies-là dans des environnements réels pour comprendre ces choses-là, effectivement.
Autre exemple, les Chinois.
Oui, alors...
Mais eux, depuis longtemps, non ?
Ah oui, alors, précisément, comme je disais, ça dépend des régions du monde. En Chine, on a les pionniers du domaine, pour le déploiement, en tout cas.
2018, vous disiez ?
Effectivement, réseau de communication quantique, opérationnel depuis 2018, y compris un réseau satellite qui relie la côte Est et la côte Ouest. Et sur la côte Est, plusieurs milliers de kilomètres avec une quarantaine de sites qui chacun vont relier un certain nombre de points à l'intérieur de ce site.
Performance remarquable d'utiliser également le satellite là-dessus, pour vous, d'un point de vue techno, hein.
D'un point de vue techno, oui, bien sûr. Ouais, ouais. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste de l'espace, mais je pense que mettre des nouvelles technologies dans des satellites, c'est compliqué, parce qu'il faut les envoyer, on ne sait pas comment elles vont se comporter, etc. Donc, c'est
on a parlé des Pays-Bas, de la Chine et en Europe, alors.
Alors, en Europe...
Chez nous, en France.
Je vais commencer par l'Europe, puis la France. En Europe, on a quand même une initiative au niveau européen qui vise à, encore une fois, comme je disais, tester ces technologies-là à grande échelle. C'est l'initiative EuroQCI qui fait qu'aujourd'hui, chaque acteur...
Ça part de la Commission ?
Ça part de la Commission.
D'accord.
Chaque État membre de l'Union européenne a aujourd'hui un projet de déploiement, encore une fois pour faire du test, mais du test en environnement réel. Donc, porté par des opérateurs de télécommunications, parce que c'est eux qui possèdent la fibre, alors, généralement. Et en France, effectivement, donc c'est Orange qui porte le projet France QCI, avec comme collaborateurs Thales, Airbus et VeriCloud, entre autres.
Et vous, donc ?
Oui.
Et donc ça veut dire qu'il y a un écosystème en Europe d'entreprises, de start-up, capables de challenger les Chinois et peut-être également les États-Unis ou pas ?
En tout cas, il y a un écosystème fort de, effectivement, parce que c'est, enfin, bon, là, j'ai parlé de EuroQCI qui fait, enfin, disons, qui permet de structurer les écosystèmes locaux, mais on a aussi d'autres initiatives qui permettent de structurer les écosystèmes à l'échelle européenne. Si je suis au courant de ce qui se passe au port de Rotterdam, c'est aussi parce qu'on connaît très bien les acteurs qui sont en train de participer à ces expérimentations.
D'accord, donc toutes les expérimentations nationales devront à un moment donné donner lieu à une doctrine d'application au niveau des instances européennes, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Ouais. Et beaucoup d'argent là-dessus ?
Alors, on dit toujours qu'il y a beaucoup d'argent dans le quantique en général. C'est rien par rapport à l'IA, par exemple. C'est significatif à l'étape où on en est, c'est-à-dire, comme je disais, de tests de technologies qui sont déjà opérationnelles. Mais
on ne parle pas de milliards, là. On est d'accord.
Je n'ai pas les chiffres en tête, mais je pense qu'on ne parle pas de milliards.
Ouais. En ce qui vous concerne, vous avez fait quoi ? Des appels levés de fonds de 2 millions jusqu'à présent ?
C'est ça.
Ce qui n'est pas extraordinaire, on est d'accord. Hein, sur une technologie qui s'annonce de rupture.
Sur une technologie qui en est encore à ses balbutiements. Ouais.
Ouais. Donc, c'est quoi les prochaines étapes pour VeriCloud, mais aussi demain pour Alice et Bob, pour Pascal, Candela, qui sont l'écosystème français ?
Alors, vous avez cité VeriCloud et vous avez cité les acteurs de l'ordinateur quantique. Ouais. Pour construire un ordinateur quantique, encore une fois, technologiquement, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on fait. Nous, on n'a pas besoin, ou très peu besoin, de faire de la physique. Donc, c'est vrai qu'en termes de financement, on a besoin de beaucoup moins que ces acteurs qui font des levées aujourd'hui à plus de 100 millions. On est sur des technologies qui sont plus simples, on est beaucoup plus sur de la commercialisation et de la recherche de cas d'utilisation.
Donc vous êtes avant l'ordinateur, très clairement, vous serez sur le marché avant l'ordinateur.
On est avant l'ordinateur, mais on a aussi à plus long terme, si on construit aujourd'hui ces réseaux de communication, c'est aussi pour y connecter des ordinateurs quantiques dans le futur, quand ils existeront. Donc, moi, je ne me considère pas, même si on opère sur des marchés différents et qu'on a des acteurs et des problématiques qui sont très différentes, je ne me considère pas comme extérieur au domaine du quantique, oui. De l'ordinateur quantique, parce que plus dans le futur, il y a cet enjeu de connecter les ordinateurs quantiques à des réseaux de communication quantique.
Bon, vous avez vu les dernières annonces, hein, tous les GAFAM, hein, Google, Amazon, Microsoft, annoncent leur puce quantique. Il y en a en Europe aussi des acteurs pour annoncer sortir des puces quantiques.
Bah, vous avez cité les trois acteurs, trois des acteurs français. Hein,
qui travaillent dessus.
Candela, Blissebob et Pascal ont chacun des technologies qui sont, qui sont opérationnelles. Ouais. Pour Candela, accessibles via le cloud, par exemple. Donc c'est non seulement quelque chose qui existe en France, mais quelque chose auquel on peut accéder depuis le monde entier.
Oui, parce qu'on peut aujourd'hui utiliser des puces quantiques.
On peut utiliser ces puces quantiques.
Qu'on n'a pas d'ordinateur quantique.
Alors, non. je vais nuancer un petit peu. On a des ordinateurs quantiques, simplement, ils sont aujourd'hui pas assez puissants, pas assez gros, ouais. Pour pouvoir résoudre des problèmes qu'on ne pourrait pas résoudre avec un ordinateur de bureau. Mmh. Mais néanmoins, la stratégie aujourd'hui des entreprises, qui est importante, c'est d'intégrer ces ordinateurs dans le workflow des entreprises pour qu'elles apprennent à les utiliser.
Merci beaucoup, Marc Kaplan, pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur France24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.